Bon, Jean-Bernard Leroy, je reprends donc mon petit discours, cette fois-ci celui du mois de décembre, qui concernera ce que l'on appelle les églises de la gentilité, c'est-à-dire les toutes premières églises après l'ascension du Seigneur. À la suite des voyages et des prédications de saint Paul, de nombreuses églises ont prospéré dans des zones où le judaïsme n'était guère influent. Un exemple typique est celui de Corinthe, ville commerciale importante, pleine de prostituées, pleine de plaisirs, mais aussi pleine de gens qui travaillaient, de gens très intéressants. Saint Paul permettant d'en avoir une connaissance assez précise. Corinthe, et donc les épîtres de Saint Paul permettent d'avoir une connaissance assez précise des débuts de l'Église dans cette ville. La célébration de l'Eucharistie a lieu systématiquement le dimanche, Uno Sabbati, dit-on en latin dans les Épîtres, qui furent probablement écrites en grec, le lendemain du sabbat et jour anniversaire de la résurrection. La cérémonie comporte quelques lectures, évidemment il n'y avait ni Épître ni Évangile, beaucoup, quelques lectures avant le renouvellement de la scène. Il y eut au début quelques dérives, car la scène avait lieu au cours d'un repas, dont les uns faisaient un banquet, à côté de miséreux qui se contentaient du nécessaire. Alors saint Paul s'est fâché, on voit dans le chapitre 11e de son épître aux Corinthiens. Son homélie se termine ainsi. Lorsque vous vous réunissez pour la scène, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui. Peu à peu, la messe prend forme. Les deux grandes fêtes, Pâques et la Pentecôte, sont devenues chrétiennes, leur côté juif restant symbolique. On ne parle même plus de circoncision. Les baptêmes solennels ont lieu la nuit pascale. Il est même fait mention de la quête dans le chapitre 16. Le premier jour de la semaine, dit saint Paul, chacun mettra de côté ce qu'il a réussi à épargner, ainsi quand je viendrai, on pourra faire la collecte. La messe prend tournure. Il y avait néanmoins des tiraillements entre les divers apôtres. Quand vous dites, certains disaient, moi je tiens pour Apollos, moi je tiens pour Paul. Mais n'est-ce pas là une manière toute humaine de juger? Ne savez-vous pas que vous êtes le peuple de Dieu et que l'Esprit de Dieu réside en vous? Que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Tout est à vous, Paul, Apollos, Céphas, mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Saint Paul rappelle la résurrection et il dit qu'il y a eu plus de 500 témoins avant l'avorton qu'il est. La résurrection reste l'essentiel de notre foi. Dit clairement, si le Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi ne sert à rien. Avec quel corps ressusciterons-nous? Un corps incorruptible, un corps qui ne s'use pas, ce qui, dans le cadre de notre science actuelle, ne peut se concevoir. Le Christ n'est pas un souvenir, mais une puissance de vie. La cérémonie de la scène est tout le contraire d'une commémoration, c'est le renouvellement du sacrifice de la croix. Telles sont les nouvelles églises. Tout est déjà dit sur la théologie de l'Eucharistie. Du côté de Jérusalem, saint Jacques a donné de ses nouvelles dans une épître rarement lue, bien qu'elle soit émouvante et pleine de tendresse. Elle est écrite dans un grec très pur, car elle est adressée aux Juifs de la diaspora, dont beaucoup ne parlaient plus hébreu. Elle commence par un hymne à la joie, y compris dans les épreuves, et elle termine de même. Quelqu'un d'entre vous est-il affligé? Qu'il prie. Quelqu'un d'entre vous est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un d'entre vous est-il malade? Qu'il appelle les prêtres de l'Église et qu'il prie sur lui après lui avoir donné l'onction d'huile au nom du Seigneur. En somme, c'est déjà le sacrement des malades. Cette épître est écrite dans le milieu des Juifs de Jérusalem, où régnaient les castes des Sadducéens et des princes des prêtres. Elle est écrite pour les Juifs de la diaspora. Mais saint Jacques vivait au milieu des Sadducéens et des princes des prêtres, qui, comme je dis, se trouvaient ivres de pouvoir et de richesse, comme il est fait allusion dans les évangiles. Vous désirez, leur dit-il, vous désirez sans recevoir, vous êtes envieux et jaloux, sans réussir à rien obtenir, vous querellez et vous guerroyez. Et plus tard, dans chapitre 5, votre richesse est pourrie, vos vêtements sont rongés de mites, votre or et votre argent se rouillent, chimiquement parlant, ce n'est pas possible. Mais spirituellement parlant, c'est bien vrai. Voici le salaire dont vous avez frustré les travailleurs qui ont moissonné dans vos champs. Vous avez condamné, vous avez mis à mort le juste. » Et on verra, quelques temps après, tous ces pauvres gens vont se trouver ruinés, dépossédés et tout, et chassés de chez eux au moment de la ruine de Jérusalem. Mais ça, j'en parlerai la prochaine fois. On trouve aussi dans cette épître, l'épître de Saint Jacques, une théologie de la tentation. Heureux l'homme qui endure la tentation, ce qui nous semble un petit peu... Et que personne au moment de la tentation ne le dise, c'est Dieu qui me tente. Je ne ferai aucune allusion à notre Père actuel. Dieu ne tente personne. Chacun est tenté par ses propres désirs et sa propre convoitise, dit Saint Jacques. Un dernier thème, objet de bien des discussions, est le rapport entre la foi et les œuvres. Un des sujets débattus avec le plus de passion entre catholiques et protestants. Dans un premier temps, cette épître fut rejetée par Luther de la liste des textes inspirés. On reste sincèrement éberlué devant un tel aplomb, mais on a vu mieux depuis avec des soi-disant exégètes qui font du tri dans les évangiles, déclarant certaines parties sans fondement, inventant deux saint Jean et trois sainte Marie-Madeleine. Enfin, saint Paul écrit bien dans l'épître aux Romains, « Si un homme a accompli un travail, on estime que son salaire n'est pas une grâce, mais un dû. Au contraire, si quelqu'un sans rien accomplir a foi en Dieu, Dieu estime qu'une telle foi fait de lui un juste. » En face, saint Jacques commence par faire remarquer que quiconque garde toute la loi mais chute sur un seul point devient coupable de tout. C'est pour ça que saint Paul avait dit que la loi est faite pour montrer nos péchés. La loi seule est vraiment rigide. Ensuite, saint Jacques ajoute, « Que sert-il à quelqu'un s'il a la foi? Que sert-il à quelqu'un d'avoir la foi s'il n'a pas les œuvres? Tu crois, toi, qu'il n'y a qu'un Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi le croient, et ils tremblent. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié pour avoir offert Isaac sur son fils en autel, sur son autel? Pareillement pour Rab la prostituée, et saint Jacques conclut, « Le corps sans souffle est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Mettez la parole en pratique. » Si l'on voulait prendre un exemple dans les mœurs politiques actuelles, on dirait « La foi sans les œuvres, c'est la rigueur. Les œuvres sans la foi, c'est l'arche de Zoé. » La foi sans les œuvres devient odieuse lorsqu'elle sombre dans l'intransigeance et dans le puritanisme. L'Église a bien souffert de ce genre de discussion qui a multiplié les schismes et les hérésies. Les bonnes œuvres dans la foi, sans la foi, ce n'est que l'humanitarisme. De saint Jean de Matha à Mère Teresa, en passant par saint Vincent de Paul et saint Jacques du Gand, c'est la foi qui les a poussés à entreprendre une œuvre maintenant célèbre, mais qui à l'origine était encore plus déraisonnable qu'une folie. Donc nous sommes là au cœur d'une discussion très actuelle. Il faut la foi, mais la foi s'incarne dans les œuvres. Benoît XVI nous incite à vivre une année de la foi entre 2012 et 2013. En résumé, la foi doit être authentifiée, validée, dirait-on en informatique, par des œuvres. Celui qui prétend aimer Dieu qu'il ne voit pas sans aimer son prochain qu'il voit, est un menteur, dit saint Jean, dans le quatrième chapitre de son épître. Dieu est amour, et un amour ne peut rester théorique. Et saint Pierre. Une tradition jamais démentie veut que l'église de Rome ait été fondée par saint Pierre. Saint Clément, le quatrième pape, parle de saint Pierre et saint Paul qui ont enseigné parmi nous. Plusieurs fragments de mémoire attestent la même chose. Saint Pierre est mort martyr à Rome, ce que personne ne conteste plus depuis qu'on a découvert l'authenticité de sa tombe au siècle dernier. L'opinion la plus répandue est qu'il est resté à Rome de 42 à 67, séjour interrompu par plusieurs absences. Saint Paul relate la présence de saint Pierre à Jérusalem, à Antioche. Il existe d'ailleurs une fête de la chaire de saint Pierre à Antioche. L'épître de saint Pierre, écrite dans une très belle langue par son secrétaire, comme il le dit lui-même à la fin de la lettre, est une véritable encyclique, dans un ton doux et convaincant. La vie des chrétiens est examinée dans son ensemble. Citons-en quelques extraits. Moi, Pierre, apôtre du Christ Jésus, qui nous a fait renaître grâce à sa résurrection. Vous tressaillez de joie, bien qu'attristés, par toutes sortes d'épreuves qui vérifieront la qualité de notre foi, bien plus précieuse que l'or. Les épreuves vérifient la qualité de notre foi. Débarrassez-vous de toute méchanceté, de toute fausseté, de toute hypocrisie, de vos jalousies, de vos médisances. Vous êtes la race choisie, le sacerdoce royal, la nation sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Est-ce là une source d'orgueil? Continuons. Soyez soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, et à l'empereur qui est le souverain, et aux gouverneurs qui sont ses délégués pour punir les malfaiteurs. Craignez Dieu, respectez l'empereur, et non l'inverse. Notons que le dit empereur les fit condamner à mort lorsqu'ils firent passer Dieu avant lui. Vous, les serviteurs, soyez soumis en toute crainte de Dieu à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont désagréables. En effet, c'est une grâce de supporter des choses pénibles en ayant conscience d'obéir à Dieu et de rappeler la croix. Il n'y a nul appel à la révolte, comme on entend si souvent de nos jours. Femmes, ce qu'il vous faut, ce n'est pas la beauté extérieure, la coiffure, les bijoux, les belles toilettes, mais une âme qui ne perd jamais sa douceur et son calme. À votre tour, vous les hommes, sachez comprendre dans la vie commune que les femmes sont des êtres plus délicats. Traitez-les avec respect, puisqu'elles héritent en même temps que vous de la grâce qui donne la vie. On a écrit peu de choses aussi simples et aussi profondes sur la dignité de la femme, et naturellement de l'homme. Il vaut mieux souffrir, ajoute Saint-Pierre, pour avoir fait le bien, si c'était la volonté de Dieu, que pour avoir fait le mal. Du coup, il rappelle que les païens seront, il paraît que les païens seront déroutés parce que vous n'aurez plus avec eux, vous n'irez plus avec eux dans leur débordement d'inconduite et qu'ils vous insulteront. C'est tout à fait d'actualité. Et d'ajouter, si on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose en vous. Et il termine par des conseils aux anciens, c'est-à-dire aux prêtres. Le règne de Saint-Pierre s'achèvera avec le début des persécutions des chrétiens, maintenant distincts des juifs. Déjà, à l'époque de Néron, Tacite parle d'une foule énorme, multitudo ingens. Le déclic fut l'incendie de Rome, un incendie qui dura plusieurs jours sur la quasi-totalité de la ville. Néron en profita pour jouer de la lyre en récitant des poésies sur la ville en flammes, devant la ville en flammes. Il se prenait pour un grand artiste. De fait, il était fasciné par la beauté. Il rebâtit la ville sur des plans grandioses, avec pour lui un palais immense contenant tous les objets d'art possibles. Cela peut amener à réfléchir sur la beauté. La beauté séduit, attire. Dieu est beau. Mais il existe aussi des beautés perverses. Dalila était très belle, qu'en a pensé Samson. Samson était d'ailleurs et se voulait artiste. Il décida de décerner lors des Jeux olympiques de Corinthe un prix olympique de poésie, prix qui lui fut naturellement attribué, peut-être par simple prudence du jury. Cet incendie de Rome rendit Néron impopulaire. Il fallait trouver des coupables. Ces chrétiens qui se singularisaient en refusant les plaisirs frelatés de la populace étaient tout à fait désignés. Néron fit preuve de son sens artistique en organisant de grandes fêtes de nuit où les chrétiens enduits de poids servaient de flambeaux. Le jour où on illustra la mythologie avec des femmes livrées aux cornes de taureaux ou des hommes revêtus de peaux de bêtes livrés aux mâchoires de doves en furie. Cela se passait en 64. 3 ans plus tard, ce fut la crucifixion de Pierre, la tête en bas selon la tradition. Quant à saint Paul, libéré dans un premier temps, ce qui lui permit de faire un voyage en Gaule sur la côte méditerranéenne, il fut à nouveau arrêté et subit le supplice des citoyens romains, on lui trancha la tête, également en 67, semble-t-il. Qui succéda à Pierre? A priori, saint Jean, le disciple bien-aimé, semblait le plus indiqué. Mais on lui préféra l'un, un diacre qui avait le sens de l'organisation et qui connaissait bien le milieu romain. Saint Lin n'était pas un mystique, mais il avait les dons nécessaires à la tâche qui lui était confiée. Nous ne sommes pas interchangeables. Là-dessus, je vous souhaite un joyeux Noël, une bonne année, et à bientôt dans l'autre année, dont je ne crois pas qu'elle sera la fin du monde, loin de là. Bon, au revoir, chers amis, et à bientôt.